J'écoute la radio Potu. 7.5.
Moquette, par mot,
grand seigneur.
Maurice,
montagne.
Moquette,
maudit,
molette.
Un gros mot.
Mouette, moto,
montagne,
moniclé,
mocassin,
monticule,
mongloriste.
Par mots et par mots, portrait sonore dans les monts du Lyonnais.
Moteur,
exprimer des sentiments.
À dire.
Moritorité salutane. Communiquer.
Les mots doux.
À échanger.
Mon cul. Les mots à rien. Les
mots modifiés d'ailleurs.
À dire ce qu'on veut pas dire.
Plus qu'un mot, je peux développer.
Je suis pas très bon en français.
Mons et par mots.
À évoquer des choses. Voilà, ça sert à ça, je pense, les mots, à dire les choses.
Je m'appelle Karine Dio, j'habite Saint-Martin-en-Haut et je suis exploitante agricole depuis 1995.
Qu'est-ce que vous faites ici? Puisqu'on est chez vous, précisons-le.
Je fais du maraîchage uniquement, que je vends dans un magasin de producteurs qui se situe à Craponne. Et je fais un peu de vente à la ferme le vendredi après-midi. Voilà. Et on a un peu de fruits aussi, fraises, framboises, mûres, myrtilles. Et c'est mon conjoint qui est exploitant et qui les cultive.
Vous avez repris l'exploitation ou c'était...
Non, je me suis installée à titre individuel. Je suis en fermage avec mon beau-père, mon beau-père en fait. Je loue du terrain à mon beau-père. Et je me suis installée toute seule et j'ai une salariée à mi-temps. Mon beau-père m'a aidée aux travaux au début et puis après mon conjoint a continué la suite. Quoi.
C'était déjà du maraîchage?
Non, c'était que des petits fruits et de l'élevage.
Et pourquoi avoir choisi le maraîchage?
Un magasin de producteurs s'est ouvert sur Craponne par l'intermédiaire de la coopérative où je givrais mes fruits à la Sicoli. Et ils ont voulu aider des jeunes qui s'installaient. Donc ce magasin est ouvert en 97.
Voilà. Donc c'est à partir de là que vous avez vraiment fait du maraîchage?
Du maraîchage uniquement. Au début, je me suis installée en petits fruits uniquement. Fraises, framboises, mûres, myrtilles.
D'accord. Bon, on va visiter. Là, on a simplement traversé la route.
Et on va rentrer dans une serre où il n'y a que des tomates, des courgettes et un petit peu de poivron.
D'accord.
Donc là, il y a plusieurs variétés de tomates. En tout, j'ai 600 plantes. Je les plante autour du 20 avril, on les plante. Donc, quand on les plante, elles sont avec un petit godet. On entoure une ficelle autour du godet pour pouvoir les attacher à des barres qui sont 2 mètres au-dessus. Donc une fois qu'elles ont pris racine, on les attache avec une ficelle et au fur et à mesure qu'elles grandissent, on les fait tourner autour de la ficelle où on met des petites clips comme ça qui sont biodégradables, c'est-à-dire que quand je vais enlever ça, c'est biodégradable, ma ficelle. Quand je vais l'enlever, mes tomates, je vais enlever mes tomates, je vais pouvoir le mettre en compost parce que ça va se dégrader et ça aussi.
D'accord.
Donc il n'y aura pas de problème. Et puis donc on les fait palisser, elles vont arriver à peu près à 2 mètres. Une fois qu'elles sont arrivées à 2 mètres, j'estime qu'elles vont, les dernières fleurs ne vont pas produire comme il faut, donc je coupe la tête. Et puis là, je vais les avoir jusqu'au mois de novembre, jusqu'aux petites gelées, quoi. Et donc elles vont mûrir autour du 10 juillet à peu près, je vais commencer à pouvoir ramasser correctement mes tomates.
Ouais, c'est à quelle période déjà vous les avez plantées?
20 avril.
20 avril.
Oui, et là on est le 30 juin, donc elles ont 2 mois. Ouais, 3 mois pratiquement, 3 mois de plantation. Et elles font, suivant les variétés de tomates, parce que comme il n'y a plus de variétés de tomates, elles font 1m50 quoi. 1m30, 1m50 suivant les variétés.
Donc il en reste...
Encore bien un bon 50 cm à grandir. Et après, on leur coupe la tête.
Est-ce que c'est ce qu'elles méritent?
Bah après, elles pendent, elles sont trop grandes et elles font du poids sur la ficelle et c'est pas utile. C'est vrai que les derniers fruits vont mûrir à 1m30 et après les tout derniers, la branche dernière, elles ne mûrissent pas en général. Il fait trop froid l'hiver, puis elles sont moins bonnes, moins de. Quand on a ramassé des tomates jusqu'au mois d'octobre, c'est bien. C'est juste que, mais après, la tomate, elle n'est pas bonne, au mois de novembre. Ouais. Elle manque de soleil, on la ramasse verte la plupart du temps.
Et combien il y a de tomates sur un pied comme ça?
Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 bouquets, 7 à 8 bouquets par tige, et il y a 5-6 tomates. Donc, je ramasse entre 10 et 15 kilos de tomates par plant.
D'accord.
Donc, j'ai 600 plants, 6 tonnes.
Ah oui.
Si tout se passe bien.
Et au fond?
Là-bas, c'est des courgettes.
D'accord.
Donc là, il y a une quinzaine de plants.
On peut s'approcher des courgettes?
Bien sûr. Ça, c'est juste pour ma vente à la ferme, en fait. Donc, c'est des petites quantités.
D'accord.
Alors, la courgette sous terre, elle est toujours impressionnante parce qu'elle pousse énormément.
C'est vrai que j'étais assez intrigué, là, de loin. Déjà, de loin, elles sont impressionnantes. Alors, maintenant qu'on s'approche.
Donc, les courgettes, je les ai plantées, ben, pareil, autour du 20 mai. Voilà. Et j'ai commencé à en ramasser... le 10 juin à peu près. Un mois après la plantation, en fait. Ça va assez vite.
Oui, on voit effectivement qu'à quelques endroits...
Voilà. Là, on voit quand on les ramasse au fur et à mesure, le plant pousse. C'est pour ça qu'il grandit, en fait. On a l'impression qu'il pousse en l'air, mais... Si elle ne prend pas la maladie, là, la courgette sous serre, j'arrive à la garder jusqu'à fin août.
Bon, mais c'est...
Et je les ramasse 3 fois par semaine pour avoir des petites courgettes. Ça grossit très vite. En général, le lundi, elles sont toujours très grosses. Parce qu'on n'y a pas été le samedi, en général. Donc, on a suivi ce matin. Donc, samedi, dimanche, lundi, on va passer. Elles seront assez grosses. Mais bon. Ouais. Parce qu'en une journée, ça prend beaucoup de centimètres, une courgette. Là, on les a ramassées ce matin. Et celle-là, elle serait bonne à prendre.
Ah oui, ce matin, elle n'était pas du tout comme ça.
Ah oui. Non, ça grossit très, très vite. Il faudrait y suivre tous les jours, pratiquement. Comme les cornichons.
Et qu'est-ce que c'est la fleur en fait qu'il y a au bout là de la courgette?
Eh ben en fait la courgette à la base c'est une fleur. C'est d'abord une fleur et après la courgette se forme sur la fleur. Et en fait c'est un fruit qui pousse sur une fleur. Là on les voit toutes petites. Ça fait une toute petite fleur qui est en train de se former, en fait. Et puis derrière, on voit la tige, en fait. Et c'est la courgette qui va devenir grosse.
Et celle-là, là, qu'on voit, qui fait quoi? 3 cm, 4? Combien de temps il lui faut pour arriver à maturité?
Bah, fin de semaine, je vais la ramasser. Vendredi, je la ramasserai.
Ah oui, donc ça pousse très, très vite.
Oui, surtout sous serre, en plus. Elles ont la chaleur, elles ont goutte à goutte. Elles ont à boire 2 fois par jour. On leur donne...
Ah oui, là, il y a un système de goutte à goutte.
Oui. Oui, oui, on arrose automatiquement avec le goutte à goutte, en fait, par l'intermédiaire de notre source qui est à la cave.
D'accord.
Voilà.
Ok. Mais c'est assez impressionnant, je n'étais jamais rentré dans une serre.
Les tomates, elles sont en train de virer, là. Vous voyez, au début, la tomate, elle est verte comme ça, là. Verte, verte. Et quand elle commence à mûrir, elle passe au jaune rosé. Et là, on en voit une qui sera bonne à prendre... Tout le monde va se chier dessus, je pense. Et puis, dans une autre serre, il y a...
On va voir.
Allô? Tu m'entends? Oui. Ouais, mais je suis dans la serre, je te rappelle. Donc là, il y a des concombres sur une moitié de serre et du basilic. Le basilic, chez nous, on le fait que sous serre, parce que sinon, on ne pourrait pas le produire. On est à pratiquement 800 mètres d'altitude là, donc les tomates c'est pareil. Et là, cette partie de serre qui est vide, c'est pour mettre des céleri pour l'hiver, qu'on va planter mi-juillet à peu près.
D'accord, donc il y a aussi des... vous cultivez aussi à l'extérieur?
Oui.
Des serres?
On a 0,5 hectare en plein champ où on fait de la salade, des brocolis, des choux-fleurs, des petits pois, des carottes, du persil, des épinards, des blettes. Je sais plus.
C'est déjà pas mal.
Oui, ça fait déjà pas mal. Puis on fait un peu de plantes aromatiques aussi, du thym, du d'estragon, de la ciboulette, de la menthe et un peu d'oseille.
D'accord. Et pour les fruits, comment ça se passe ?
Donc les fruits, c'est mon conjoint qui gère. Et en fait, il a pris la suite de son père, qui est à la retraite depuis l'année dernière. Mmh. Et lui, il livre en grosse quantité à la Cicolier, la coopérative.
D'accord. Et la production se fait par ici aussi ?
Oui. Il y a des framboises juste à côté, là. Mmh. Et les myrtilles sont en dessous de la maison. Les murs aussi. Et en bas, il y a une autre serre de légumes aussi, où il y a aubergines et poivrons.
D'accord. Alors, comment vous pourriez nous parler de la manière dont vous produisez ? Quel rapport vous avez à votre activité ?
Le but du maraîchage, de la vente directe, c'est que j'ai le contact avec le client parce que je fais la vente. Je ne fais pas les marchés, mais c'est un peu le même genre. On est ouvert tous les jours de la semaine. Je vivais une fois par semaine au magasin. Et autrement, comment dire... Je cultive traditionnellement, on essaye de ne pas trop mettre de produits phyto. On utilise beaucoup de produits phyto bio, en fait ça marche très bien. Et puis on met beaucoup de fumier, on n'apporte pas forcément beaucoup d'engrais. Comment dire autrement ? On n'est pas bio de toute façon.
Pourquoi pas bio ?
Parce que malgré tout, le bio, quand il y a certains produits qui ne sont pas évidents à faire, comme la carotte, et en contrepartie, on ne la valorise pas forcément plus. Ça a quand même un coût de revient en bio qui est énorme. Il faut désherber à la main. Alors que là, j'ai des produits qui sont intéressants que je peux désherber chimiquement. Quoi. La carotte, je la désherbe une fois et ça suffit. Et après, je suis tranquille. Il y a beaucoup de produits comme ça. Mais c'est vrai que malgré tout, on bine au tracteur. On travaille beaucoup comme les bio, quoi. Mais bon, c'est une démarche particulière, le bio aussi.
C'est-à-dire, quelle différence vous pourriez faire entre avec ce que vous faites ? Parce qu'en même temps, vous n'êtes pas non plus à déverser des tonnes de pesticides et d'engrais.
Non.
Alors, où elle est la frontière entre tout ça ?
C'est-à-dire que le magasin producteur aussi où je suis, personne ne pousse à être bio. Donc du coup, on n'a pas cette démarche-là actuellement, on n'a pas la demande, quoi. Bon, il faut quand même 3 ans avant de devenir bio quand on ne l'est pas du départ. Donc c'est un temps, c'est un coût. Et actuellement, je trouve que je fais des bons produits sans forcément avoir cette appellation. Quoi. Mmh.
D'accord. Est-ce que donc vous êtes heureuse d'être ici, de faire cette...
oui, je suis bien. Moi, je n'ai pas du tout de la région lyonnaise, mais je suis bien contente d'être là et puis de m'être installée. C'est vrai que c'était mon rêve, mais c'était dans l'élevage. Mais bon, voilà, je suis maraîchère. Mais c'est bien d'être à son compte. J'ai le contact avec les clients, quoi, du fait que j'ai la vente directe. J'ai le retour des gens, c'est bien.
Vous venez de dire que vous n'êtes pas de la région. Est-ce non. que pour autant vous avez grandi dans une ferme non. ou pas du tout vous...
Mes parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Je me suis installée. Maman était secrétaire et papa travaillait dans les métiers à tisser. Et moi, j'ai toujours la passion de l'élevage. J'ai fait une école agricole de très tôt dans l'élevage bovin et équin. Je m'occupais de chevaux. Et puis. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Gaël, mon compagnon, et son père est exploitant. Puis à force de faire 2-3 boulots à droite et à gauche, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne t'installerais pas avec moi ?» Et puis voilà, quoi, ça s'est fait.
Donc c'est sans regret aujourd'hui ?
Non, sans regret, sans problème. Aucun problème, là. C'est vrai que c'est vraiment bien.
Je voulais vous parler un peu du festival aussi.
Oui.
Pour quelle raison avoir accepté que tous ces gens débarquent chez vous ?
J'avais pas. C'est un voisin qui m'en a parlé, qui m'a dit ça serait bien de faire ça chez toi. T'as le site qui serait sympa, tout. Moi, je connaissais pas du tout. Hein. J'avais jamais. Déjà, je connaissais pas le festival et puis j'ai fait connaissance au fur et à mesure avec vous, voilà. Et je trouvais que c'était une bonne démarche de faire ça. J'avais déjà fait une porte ouverte de ferme en ferme il y a quelques années. Puis c'est vrai que c'est bien de faire découvrir notre travail, notre exploitation aux gens qui ne sont pas forcément du milieu.
Vous écoutez par exemple de la musique régulièrement ou...
On a travaillé énormément avec la radio. Ouais. On travaille beaucoup avec la radio. Quand on trie des légumes, par exemple, ça reste des fois monotone. Donc, voilà, avec ma salariée, qui est ma belle-sœur, on travaille beaucoup avec la radio.
Bon, ce soir, vous les avez rencontrés là.
Oui, je les ai rencontrés. Ils ont déjà testé, commencé à répéter. Ça me va.
C'est vrai, première aperçu, ouais, première sensation favorable.
J'ai pas forcément des CD de musique étrangère, style argentine, brésilienne, mais j'aime bien en écouter de temps en temps. Ça me dérange pas.
Bon, donc ça va. Vous êtes contente
de boule caisse ce soir.
Vous êtes contente de la programmation.
Oui, oui. Sans souci.
Bon, merci, bonne soirée.
Merci, vous aussi.
Merci.
Salut Marc. Tu dois faire plein de choses maintenant que tu es à la retraite. Tiens, salut, il paraît à la retraite.
Marc Fillon, j'ai 65 ans. J'ai été paysan pendant 40 ans dans mon village, puis avec des vaches laitières. Et puis, arrivé au moment de la retraite, par une circonstance d'accident heureux, finalement, je suis monté sur scène, ce que je n'avais jamais fait, même en théâtre amateur, en théâtre de village. D'abord au Festival de Contes à Saint-Chamond, avec des histoires que j'écrivais moi-même, petites historiettes. Et puis, de fil en aiguille, je suis passé un peu au Café Théâtre, principalement au Théâtre de Poche à Saint-Étienne. Et puis à partir de là, c'était parti pour une mini-activité dans le spectacle.
Et l'accident heureux au départ, c'était quoi alors ?
Ben, c'était qu'il y avait une scène ouverte à ce festival de contes. Et puis moi, j'avais une petite histoire dans la tête comme ça, mais j'étais complètement inconscient parce que c'était presque des gens en voie de professionnalisation qui étaient là, qui venaient des ateliers de la rue Raisin à Saint-Étienne. Mais bon, ça a passé. Et puis, dans la semaine qui a suivi, j'ai écrit deux histoires pour l'année suivante. Et je ne les ai jouées qu'au bout d'un an.
Et avant, t'écrivais déjà avant ?
Non. Parce que paysan, c'est un boulot qui vous prend beaucoup. En définitive, non. Non. Jamais j'avais écrit. À part à mon cousin pour lui souhaiter la bonne année.
Et des lectures, peut-être, alors ?
Ah ben oui, j'ai lu, mais un peu tout à trac, hein. J'ai pas de culture littéraire, donc oui, j'ai lu beaucoup quand même sur la ferme, ça permet de rompre l'isolement. Et puis quand même, j'ai toujours un peu regardé à l'extérieur. Mais sinon, c'était pas une volonté affirmée de faire ça. Ça m'est tombé dessus.
Alors, qu'est-ce que vous vous présentez, enfin, sur le programme, il y a écrit conteur paysan. C'est important pour vous de mettre, d'accoler les deux qualificatifs, conteur paysan. C'est les deux ensemble.
Ben, je sais pas trop, mais bon, je m'en fiche, après tout. Mais je pense que ça doit suivre un peu le paysan et le terroir, quand même, même si je parle de tout. Hein. Et puis que j'ai joué, en définitive, plus en ville qu'à la campagne. Parce que, quelquefois, ma causticité me joue des mauvais tours.
Vous pouvez nous en dire quelques mots de ça ? Comment c'est reçu ? Alors, quelles sont les différences entre la ville et la campagne ?
Eh bien, en ville, c'est plus anonyme en ville. Donc, c'est forcément pour le voisin, ce qu'on dit. Tandis qu'à la campagne, on va savoir s'il ne parle pas pour moi. Donc, Alors qu'en fait, je parle pour tout le monde, y compris surtout, je me moque de moi, de mon voisin, mais qui est un voisin irréel, de ma femme, mais qui est une femme virtuelle, quoi. Donc, et puis il y a des sujets qu'on n'aime pas aborder à la campagne. Et même ce soir, il y a un sketch que je ne vais pas faire. Mais bon, à la fois, parce que ben, il parle du suicide. Et plutôt, c'est plutôt un hommage parce que c'est un phénomène récurrent en campagne. On en parle peu. Et je trouve, moi, c'était plutôt un hommage que je rendais à ces gens qui disparaissent de la circulation et qu'on enterre vite parce que ça gêne, quoi. Mais je le fais, hein, quand même. Il n'est pas enterré complètement. Mais là, ce soir, comme je voulais réduire un petit peu, je ne vais pas le faire. À moins que...
Il est long, ce sketch ?
Ce sketch, il est long ?
Non. Non, non, mes sketchs, ils font tous 5 à 6 minutes à peu près, à part quelques poèmes qui sont plus courts. Je ne sais pas, ça doit être un rythme d'écriture pour raconter ma petite histoire sur une page. Et ça dure 5 à 6 minutes. J'essaye d'aborder tout. Là, cette année, j'ai écrit quelques nouvelles. Alors, je trouve que j'ai faibli un petit peu au niveau de la création dans les sketchs. C'est peut-être... Mais j'ai pas retrouvé l'humour que j'ai dans les sketchs, paraît-il. Alors...
Hola, vous qui partez. Arrêtez-vous un peu pour entendre un instant ce que va dire ce vieux. Il paraît accablé. Son visage est tout blême. C'est sûr, il fallait pas manger des OGM. Abusé par la mode, abusé par la science, car ils ne savaient pas qu'ils n'ont plus de conscience. Il a mangé aussi un peu de vache folle, et devant ce désastre, abusé de l'alcool. Et voilà qu'apparaît l'horrible canicule qui sur notre pays étend ses tentacules. Pas un jour de répit, pas un jour de repos, et si ça continue, ce sera le chaos. Et puis, venant de Chine par un vol imbécile, la grippe maintenant atteint les volatiles. Le virus mutant veut se jeter sur l'homme. Nous payons pour nos fautes, comme autrefois Sodome. Poussé par le progrès, il a fallu produire. Et maintenant, l'Europe va payer pour détruire. Mais quelques paysans, sans doute originaux, ont retrouvé tout seuls les produits régionaux. Laissez-vous donc guider par les petits chemins. Goûtez, dégustez, savourez, soyez épicuriens.
Vous avez une écriture qui s'adapte mieux au texte court.
Sans doute, oui. C'est presque... Ben, j'en suis venu à une écriture orale. Forcément. Écrire, c'est autre chose. Pourtant, je voudrais laisser quelques traces. Je ne peux pas faire que... Là, j'ai même pas fait de CD depuis 5 ans que je sévis, quand même.
Il va falloir.
Oui, c'est un projet. C'est un projet... Donc là, mais c'est difficile. L'an passé, j'ai fait le festival d'Avignon. Ça devait se reconduire cette année. Et puis, en définitive, le théâtre, pour des raisons administratives, ne s'est pas ouvert. Bon, c'est annulé, mais c'est pas grave. Mais sinon, je fais une dizaine de spectacles dans l'année. À peu près moitié de rural et moitié dans des cafés-théâtres sur Lyon, Saint-Thé. J'ai même joué au point virgule à Paris. Mais bon, c'est pas plus difficile de jouer à Paris que dans une ferme des Monts du Lyonnais. Hein.
Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez de ce festival itinérant qui va de ferme en ferme et qui installe des spectacles dans les fermes ?
Eh ben, c'est forcément bien parce que c'est forcément oui parce qu'à la fois ça permet de découvrir l'architecture des fermes, des lieux qui sont conviviaux, qui apportent une ambiance particulière, et puis. De faire sortir des gens, d'ouvrir des gens sur des choses qu'ils ne connaîtraient jamais en définitive. Parce que quand on est isolé, bon, on a le boulot par-dessus la tête, ben, il faut toujours se booster. Après, on est content. Mais alors, si ça vient un peu à votre porte, et puis dans des conditions comme ça, sympas, ben, moi, je trouve que c'est bien, quoi.
Là, ça fait 2 fois que vous parlez d'isolement, en fait. C'est quelque chose dont vous avez souffert ? Parce que là, maintenant, forcément, vous êtes entouré de gens, vous faites des spectacles, vous êtes avec beaucoup de gens. Mais avant, vous étiez agriculteur dans votre ferme. Est-ce que maintenant, un peu avec du recul, ça, c'est une période qui vous pesait, cette solitude ou...
Non, parce que je m'ouvrais bien sur l'extérieur. Je sais pas si je vois. Je suis pas sûr que je vois plus de monde aujourd'hui. C'est par séquence. Je vois des gens différents, je vois des gens plus loin. Non, le métier permettait de voir beaucoup de choses. C'est vrai que après j'ai coupé avec le métier, donc on voit beaucoup moins de monde. Mais forcément, à la campagne, on est un petit peu isolé ou on est prisonnier d'activités. Bon, les fêtes classiques, quoi, auxquelles on n'échappe pas, qui sont sympas, c'est pas la question, mais on aurait plutôt tendance à se refermer sur un petit noyau. Mais je sais pas, c'est pas quelque chose apparemment que j'ai bien analysé. Hein.
Et ce festival, donc, il essaie justement de tisser un peu des liens entre l'agriculture et la culture, entre ces deux univers. Et vous, vous êtes justement au centre de ça. Enfin, comment vous ressentez ces deux mondes? Est-ce que vous trouvez que ça, effectivement, ça se ressemble, la production agricole, la production culturelle?
Ça se ressemble peut-être par la difficulté. Parce que quelquefois, je dis, je croyais que je faisais le dernier des métiers, mais je vois que c'est encore plus dur dans le spectacle. C'est dur, c'est pour les gens qui tiennent... Il y a peu de gens qui tiennent leurs promesses, en définitive. C'est drôle, hein ? Plein de gens qui vous disent, tiens, mais on te fera venir, on te fera... Mais c'est valable aussi bien pour le monde rural que pour... Mais j'en veux pas aux gens, parce que dans l'instant où ils me le disent, ils pensent ça. Puis après, on est emporté par autre chose. Et... Non, sinon... Oui, c'est un métier artisanal, en définitive. Ouais, on revient à la solitude. Peut-être que je suis plus seul en tant qu'artiste que... Parce qu'après, quand on écrit, oui, on est seul, forcément. Et puis, il faut quand même essayer de dire ce qu'on a envie de dire. Si peu que ce soit.
On va peut-être arrêter là, parce que merci beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie.
Dernière call, vous avez une idée de slogan ou de jingle pour Radio Potu?
Radio Potu? La radio pointue, non?
107.5.
Merci beaucoup.
Radio Potu, montez un peu le son, s'il te plaît.